France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un immense trou dans la terre. Un réseau de tunnels et de tuyaux qui, de l'extérieur, ont une apparence des plus banales. Et pourtant, à l'intérieur de cette mégastructure circulaire de 27 000 mètres de circonférence, des protons circulent à une vitesse étourdissante, proche de celle de la lumière. Le grand collisionneur de Hadron du CERN est le plus grand accélérateur de particules au monde, responsable pour la découverte scientifique et cosmologique essentielle du boson de Higgs. C'est un haut lieu de la science et de la technologie, mais aussi des questionnements sur l'origine du monde, lui conférant une dimension presque mystique qui dépasse le domaine de la rationalité. C'est un lieu, une machine géante qui contient peut-être en son sein la réponse aux questions les plus fondamentales, celle du commencement de l'univers ou celle du sens. Ce numéro de Sur les Dogs de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Céline Terce, donne lieu à une rencontre étonnante entre ce miracle de la technologie et l'instigateur d'une autre révolution, plus théâtrale, mais sans doute tout aussi importante. Il s'agit du dramaturge anglais Edward Bond. Invité par l'acteur Carlo Brandt et la physicienne Sandrine Laplace, ils visitent et parcourent ce lieu singulier qui leur inspire des réflexions cosmiques, politiques et métaphysiques. Une émission diffusée pour la première fois le 22 janvier 2014.
Cher Carlo, merci pour ton invitation. Je suis très intéressé à l'idée de visiter l'accélérateur du CERN à Genève avec toi le 9 octobre prochain. La relation entre l'être humain et le théâtre d'une part, le cosmos et la physique quantique d'autre part est très étroite et suggestive, bien que ces deux dimensions ne soient pas réductibles l'une à l'autre, bien sûr. Mais compte tenu de la corruption de l'imagination par l'idéologie, elles peuvent s'informer et s'influencer l'une l'autre. Je considère mes propres tragédies comme des accélérateurs de particules du moi humain. Dans un univers dépourvu de sens, elles sont à la recherche d'une signification pour ce que l'on a l'habitude de nommer l'âme et pour l'humanité.
This could not be a customary interview about drama. It touches on my ideas about imagination and happiness. That's the bit you really want me to read. Imagination can only be about this world because there is no other. And yet, society is using.
Ceci rejoint mes idées sur l'imagination et l'homme. L'imagination ne peut se déployer que dans ce monde, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Bien que les sociétés utilisent l'imagination pour prétendre qu'il existerait un autre monde, Dieu ou le destin, qui contrôlerait celui-ci. Nous ne serions pas humains sans l'imagination puisque nous ne serions pas conscients de nous-mêmes. Elle est la source de notre humanité mais aussi de notre inhumanité. Ce sont là les idées qui sous-tendent toutes mes pièces dans lesquelles tu as joué, Carlo, ou plutôt auxquelles tu as donné vie. Donc, oui, cela m'intéresse.
We should certainly try to do this.
Edward.
Laissez Edward s'asseoir ici. Edward, here you have a seat. Come on here. You don't want a seat. Et voilà, donc départ pour le CERN, où nous allons visiter l'accélérateur de particules. Mon frère Daniel a été un des concepteurs du premier accélérateur, le LEP, et a travaillé aussi sur le LHC, le deuxième, qui est le plus grand. Et je me suis toujours dit que sans doute, nous faisions exactement le même métier. Lui donnait les outils nécessaires aux physiciens des particules pour casser la matière et la comprendre. Sans doute que personnellement, en travaillant sur les grands textes, j'essayais de comprendre l'homme, ce que c'est qu'être humain. Mes particules à moi, ce sont les mots des grands auteurs. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Edouard Bond d'être présent lors de cette visite pour sans doute interroger aussi le paradoxe des machines qui sont créées par la science pour mesurer la matière.
Edouard Bond et Carlo Brandt dans l'accélérateur de particules. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Céline Terce.
Mérin, Suisse, frontière, France. Jura, Léman. Conseil européen pour la recherche nucléaire.
Prochain arrêt, Maisonnet.
CERN.
Ok, we are right.
Un anneau, 27 km de circonférence. 8 puits.
Où est-ce qu'on va là exactement ?
Point 2, un des points d'accès au tunnel.
Ah, d'accord.
Et c'est au point 2 que se trouve aussi l'expérience Alice.
Tout ça, c'est des acronymes. Quand on essaie de faire un nom d'expérience, effectivement, on essaye de mettre en place un acronyme qui a du sens. Atlas, par exemple, c'est la plus grande de toutes les expériences qu'on a construites au CERN.
Sandrine Laplace, physicienne.
Donc on a choisi Atlas, qui porte le monde sur son dos.
Do you remember of Atlas?
Who is Atlas?
Yes.
Yeah, he holds that up. Yes.
But it was in Born.
Really?
The father who takes his son on his back. Oh. Yeah, I remember, I was the father.
Oh.
Et donc Atlas, le dieu Atlas transportait la Terre sur ses épaules. Et j'ai toujours pensé à Atlas lorsque on jouait Born. Une des pièces de Edouard Bond à Avignon il y a quelques années, je transportais mon fils sur les épaules et tous les soirs je pensais à Atlas.
I hate it when people quote my plays against me.
Yes.
It's difficult.
Le premier collisionneur s'appelait Lear. D'accès à l'accélérateur.
Oui, il y a un certain nombre de puits, donc des puits de 100 mètres de haut, qui permettent d'accéder à LHC, au tunnel de LHC. Donc là, on est dans un de ces puits.
Puits numéro 2.
Let's go.
Le grand collisionneur de Hadron. 100 mètres sous terre. LHC, descente, ascenseur. Rappel des règles de sécurité, immobilité. Immobilité. La porte s'ouvre. On est dans un sas. Une autre porte s'ouvre. Nous entrons dans le tunnel où arrivent les flux de protons. Là, on arrive dans l'anneau.
So we are now 100 meters on the ground. Yes, we took the elevator.
That's it.
know how globally the accelerator is designed.
Vous savez globalement comment est conçu l'accélérateur ? C'est là que nous injectons les faisceaux à l'intérieur de ce grand anneau de 27 km.
So we take the, we have a, it's very funny, you have a bottle of hydrogen.
Et c'est très drôle, nous prenons une bouteille d'hydrogène et nous extrayons tous les protons. On enlève les électrons parce qu'ils ont des charges différentes. On garde seulement les protons pour les accélérer dans ces deux tuyaux. L'idée est de provoquer une collision entre ces deux faisceaux. Là, on ne voit qu'un seul tuyau, mais il y a deux faisceaux qui circulent dans des directions opposées, et à certains endroits, ils se rencontrent. À ces points de collision, nous avons construit des détecteurs énormes qui analysent ce qui se passe. Il y a quatre grands détecteurs.
Ils passent leur temps à tourner en rond, et de temps en temps, ils se percutent. Et à nouveau, ils tournent en rond.
Oui et non, ils se percutent tout le temps, mais ils tournent en rond.
Et occasionnellement, ils se rencontrent.
Alors les protons voyagent à la vitesse de la lumière, ou presque, et ils parcourent ce grand circuit de 27 km 11 000 fois par seconde. Et 11 000 fois par seconde, ces faisceaux se croisent à ces points de collision. Nous avons des milliards de protons qui voyagent et seuls quelques-uns se percutent, et cela en permanence. Il y a tellement de protons, et même si c'est très peu d'entre eux qui s'entrechoquent, ce pourcentage très mince permet toutefois de créer quelque chose d'intéressant.
Câblage partout, l'univers froid, lumière de néon, lumière orange, des signaux de danger, du matériel électrique, des petits câbles, des gros câbles, du bleu pétard, du orange, du rouge, des gros blocs de puissance, des numéros, du métal vert pâle. Couleur jaune canari. Là, sur un gros tuyau QQSJ5, 20,2 tonnes, 14 963 mm, type de véhicule MCTV, Jumper Downstream. Posé sur un véhicule avant chargement, deux berceaux amovibles avec cible vers l'intérieur. Deux berceaux MUE standard.
Donc là, à l'intérieur, cela circule à la vitesse de la lumière. Vraiment?
Oui.
C'est extraordinaire.
Because of course you need to have nothing on the way of the beam. So
à l'intérieur, il y a un très grand vide parce que évidemment, il faut qu'il n'y ait absolument rien sur le trajet des faisceaux.
One of the emptiest place in the universe.
Et c'est l'un des endroits les plus vides de l'univers.
Yeah, I see, I see. That's interesting.
Oui, c'est intéressant.
And these magnets are
Et ces aimants sont placés dans un environnement extrêmement froid, de façon à ce qu'ils dépensent le moins d'énergie possible. Nous avons recours à la supraconductivité, qui fonctionne à des températures très très basses, à une température plus froide que celle de l'univers.
Ne pas marcher. Don't walk. Lumière qui scintille dans le papier alu. Sol, peinture écaillée, jaune pâle, griffure, métal lisse qui reflète la lumière au sol aussi, des numéros, des lignes blanches, des griffures encore, des boîtiers qui recouvrent les faisceaux, des lettres imprimées, des numéros écrits à la main, et toujours ce tunnel, interminable, distance, point de longueur, point de distance, Demon Page.
des tags là sur les murs, comme sur les murs de notre cité. Des traces de pas, des traces de visites, des noms. Là sur ce tuyau, pour toi, je t'aime.
Cette physique, les particules, elles nous aident à comprendre, en gros, ce qu'on voit de l'univers.
Oui.
Ah, d'accord. Qui n'est qu'à peu près que 5% de l'univers.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on va faire de cette physique alors qu'on sait que la physique qui est développée ici absolument pas servir à la compréhension de 95% qui reste et qui est d'une autre nature. Nature.
We are in a stage now of this science, meaning the science of trying to understand particles which are linked to the universe, so everything is linked. We are in a stage where we are a bit stuck somehow.
Nous sommes dans une situation de quasi-impasse. Nous avons une très bonne compréhension des types de matières explorées jusqu'à présent, mais qui ne représentent que 5% de l'univers. Nous n'avons aucun indice concernant ce qui constitue le reste. Mais on sait que cela existe, nous avons des preuves. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'énergie noire, cette chose dont nous ignorons ce qu'elle est, mais qui est responsable du fait que l'univers continue de s'étendre de plus en plus vite.
In principle, if you had only a logical universe where you had only gravitation.
Si on avait un univers logique avec la seule loi de la gravitation et des autres forces connues, les objets continueraient de s'attirer les uns vers les autres et l'univers finirait par s'effondrer. Mais c'est l'inverse qui se produit. Et l'univers s'étend de plus en plus vite. C'est un mystère. Nous avons mesuré très précisément que cela se passe ainsi, mais nous n'avons aucun moyen d'expliquer.
It could be that we just stay forever like this. I mean, it's a possibility that this will remain.
Et on pourrait rester à jamais dans cette situation, c'est une possibilité, c'est toujours un mystère. Peut-être dans plusieurs siècles nous trouverons une voie, mais il est aussi possible que cela reste à jamais hors d'atteinte.
Parce que c'est 90% d'énergie sombre et justement à voir avec l'antigravitation.
Hein, l'antigravitation.
C'est donc une énergie qui déchire l'univers et qui ne le fait pas tenir, contrairement à la matière noire et à la physique des particules développées ici.
Mais cette la façon qu'ont les gens de s'imaginer aujourd'hui cette énergie noire, on cache ça sous ce qu'on appelle la constante cosmologique.
Oui.
C'est-à-dire un certain état du vide. Alors ça devient tout de suite mystérieux. Certain état du vide qui agit comme si il avait une pression négative. C'est ça qui fait que l'univers se dilate de plus en plus vite. Et le champ de Higgs, c'est le seul champ aujourd'hui, qu'on vient donc de découvrir expérimentalement, qui a à voir avec le vide. C'est le champ qui est non nul dans le vide, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui occupe le vide, le champ de Higgs.
Oui, justement, donc c'est pas vide.
Le vide n'est pas vide.
Voilà.
Le vide est rempli de ce champ. Et ce champ, il pourrait, pour l'instant, c'est...
C'est un gros conditionnel.
Oui, c'est un gros conditionnel. Mais il est possible que le champ de Higgs puisse être à l'origine de l'inflation. Donc il y a quand même un lien, pour le coup, expérimental.
Il y a un lien, parce qu'on est dans le même corps. C'est l'univers. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les recherches en neurobiologie, etc., etc. On en est à un stade où on dit aujourd'hui... Ce qui fait qu'on pense qu'on est conscient, c'est une très petite partie de nous. C'est à peu près 5%.
De nos neurones ?
Oui. On sait aussi que le champ inconscient, c'est pratiquement, comme par hasard, cette même proportion avec l'univers.
J'avais jamais entendu ce parallèle, mais c'est intéressant.
Oui, mais c'est moi qui le fais. Comme par hasard. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un ailleurs qui n'est pas de la même nature, pourtant, qui est transportée par le même corps. Le corps de l'univers, on sait, il est là. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas le temps d'ouvrir ce dialogue si compliqué qui existe entre
la science machiniste, je schématise un petit peu, enfin la science qui passe par l'analyse de nous-mêmes et de ce qui nous entoure par la machine, à la science de l'intérieur, qui est la science des créateurs, qui est notre science à tout à chacun d'ailleurs, et de commencer à travailler une fois pour toutes, ensemble, sans évacuer ce que la science déteste, c'est la subjectivité.
Et ce tunnel interminable, deux flèches, à gauche 221 mètres, à droite 2603 mètres. Des noms parmi les câblages, Lionel, Hubert, partout, position 68, au feutre Gautier, mercenaire, maintenance, ces néons qui rendent cet endroit mort. Mort. Là, un établi, un étau, un téléphone en bakélite noire, des traces sur le mur. Frottement, griffure, coups. En cas d'alarme, ne pas descendre. En cas de larme, ne pas descendre.
The thing is this, you know, people say, what is there before the Big Bang? Well, before the Big Bang, there is no space.
Les gens disent, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Mais avant le Big Bang, il n'y avait pas d'espace, donc pas de temps, pas de matière. Il n'y avait donc rien avant. Si on retourne avant, on ne trouvera rien susceptible d'être pensé. Ce ne serait pas analysable en termes de pensée. La nature est donc de toute évidence dépourvue de sens. Elle n'a pas de signification.
Yes. It has no meaning, you know?
Yes.
It does things.
I totally agree with that, in fact. I think what you've said makes lots of sense. Now we try to ask.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Slightly differently.
Sure.
But what we're trying to understand is a smaller question, maybe.
Mais nous essayons de nous poser la question légèrement différemment.
Now we start from the meaningful point. Yeah. So right after the Big Bang, and now we're trying
à présent, nous partons du point signifiant, c'est-à-dire juste après le Big Bang. Et à partir de ce moment-là, nous essayons de comprendre si les choses sont ainsi pour des raisons de pure nécessité ou par hasard. Et le but de cette physique est justement de pouvoir trancher entre ces deux options.
Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire.
Because I think, you know, if you go back to the Big Bang, then everything that can.
Je pense que si on remonte au Big Bang, tout ce qui est dans l'univers devait être là potentiellement à l'origine.
And I am conscious. So in some sense, in the Big Bang, there must be something that is related.
D'une certaine façon, il fallait qu'il y ait dans le Big Bang quelque chose qui ait un lien avec la conscience. Sinon, je ne serais pas là.
Otherwise, I can't be here. I must potentially.
Il fallait potentiellement que je sois présent dans le Big Bang. Ma complexité devait être dans le Big Bang.
There from the beginning, but.
Excuse-moi, Edward. Est-ce qu'on peut dire que la matière s'est interrogée elle-même? C'est ce qu'on est, hein?
Oui, on est.
Oui,
la matière.
Alors c'est quoi ce bordel? Non, mais c'est quoi? C'est quoi ce truc? Tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'il dit.
I said that nature has absolutely no meaning. It's meaningless.
La nature est dépourvue de signification. Elle ne fait que suivre ses lois. Elle est complètement déterminée. Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, lui aussi, est de la matière. Ce qui veut dire que le cerveau n'a pas de signification.
And so you have to say, well, where does meaning come from? And that is the.
Donc on est obligé de se demander d'où vient le sens. C'est la question la plus importante. Parce que si la matière n'a pas de signification, c'est que l'être humain a apporté le sens à l'univers. Et c'est une chose extraordinaire. Nous créons le sens. Et on peut chercher à l'intérieur de ces machines autant que l'on veut, et il faut le faire, car c'est intéressant. Mais on ne trouvera jamais rien qui soit de l'ordre du sens. Ce qui m'intéresse, c'est comment nous avons pu créer notre humanité. Et c'est important de dire que les êtres humains sont nés humains.
Vous voyez, tous les humains sont nés Hamlet, Lear.
Tout être humain est né Hamlet,
Antigone,
Lear, Antigone, Hécube. Bien sûr, nous sommes reliés au monde matériel parce que notre corps est de la matière. Mais il nous faut fonder cette chose que l'on nomme culture. Cette machine peut découvrir ce qui existe. Mais elle ne peut rien découvrir de ce que l'on appelle culture, parce que la culture est ce qui change. La matière est toujours de la matière, et restera de la matière jusqu'à la fin des temps. On en découvrira davantage, mais elle ne changera pas. Les êtres humains changent tout le temps. Nous avons changé l'univers et il n'y a qu'une façon de créer ce sens de l'humanité et c'est le théâtre. Il faut donner une représentation de ce qui se produit pour nous réaliser en tant qu'êtres humains.
So Edward, I let you to your hotel and tomorrow we will come at 11:30.
The torture starts again tomorrow.
Okay?
Yeah, that's fine. And you were very busy.
Thank you, Edouard. Oui, ce matin, Edouard me demandait pourquoi je l'avais demandé de venir. Et je lui ai dit que j'étais obligé, que c'était une partie de moi-même. Alors, où lui était une partie de moi, et moi j'étais sans doute une partie de lui. J'avais commencé à faire le calcul de combien d'heures j'ai passé avec lui sur les plateaux, en répétition et en représentation. Et ça fait, je pense, plus de 3000 heures. Et en fait, on a même, je crois, jamais bu un café ensemble. On a toujours parlé après les représentations à Avignon ou à Paris, au Théâtre de la Colline, mais avec tout le monde. Une fois, quand on jouait Borne, on a passé une fois une demi-heure à discuter dans la cour du lycée Saint-Joseph sous les platanes, avant que l'orage éclate, et ce soir-là, on n'a pas joué. Il me dit... Je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à jouer mes pièces. Il suffit de jouer la structure. Et il fait un silence et après il me dit la structure, c'est comme les chevaux. Il suffit de monter sur le cheval et de se faire emporter par le cheval. Ça, c'est la structure. Et il fait un temps et puis il dit le problème, c'est que tous les acteurs n'aiment pas les animaux. Et en particulier les chevaux. Et c'est exactement ça. En 91, Théâtre de la Ville, création en français de la Compagnie des Hommes, il y avait des moitiés, voire des trois quarts de salles qui se barraient. Et Dieu sait si la salle du Théâtre de la Ville, elle est immense, fait plus de 1000 places. Les gens criaient en... sortant, remboursé, enculé, tout ce qu'on veut. Il y a même un soir, un type qui est monté sur le plateau, qui est venu cracher sur le plateau. Et deux ans après, quand on a repris la pièce à la Colline, tout le monde était debout dans la salle en disant « au génie », etc., etc., comme quoi. Mais quand on a créé la pièce, les gens n'étaient pas prêts à... Ils n'étaient pas en phase avec cette lecture du monde qu'a l'écriture de Bond. Parce que cette manière de rentrer dans le monde par l'imagination et par l'écriture des extrêmes, car il travaille là-dessus, pour définir ce que c'est l'humain, il faut en donner les contours. Et les contours d'une figure, c'est les extrêmes. Donc il utilise ces contours-là pour essayer de se connaître nous-mêmes, ce que les Grecs aussi essayaient de faire. Donc je ne pouvais pas imaginer visiter cet accélérateur sans lui. C'est la personne à qui j'ai le plus donné sur un plateau, parce que ça a marqué mon corps à jamais. Quand j'ai arrêté de jouer au théâtre de manière intensive, c'était sur Borne, Naître. Et depuis que j'ai arrêté ce travail au théâtre, mon corps est en feu.
Downstairs again, but now in the experiment hall.
Il retourne encore sous terre, mais cette fois dans la caverne expérimentale.
Caverne expérimentale d'Alice. Alice, 26 mètres de long, 16 mètres de large, 16 mètres de haut, 10 000 tonnes. Tonneau central avec un spectromètre à muon à un seul bras.
The key of the Alice. To go to the other world.
C'est une clé spéciale hein, pour rentrer dans Alice.
We hand these back.
Issue de secours. Emergency exit. Franchissement de la porte. Lampe rouge allumée. Passage interdit. Danger. Bouton vert allumé. Passage autorisé.
Avec votre clé, vous le mettez très près d'ici. Ça devient vert. La porte ouvre. Après, vous devez faire un pas sur le carré jaune. Et après, cette door va fermer, l'autre va ouvrir. Il ne faut pas bouger.
1. Appuyer sur le bouton vert. 2. Attendre le déverrouillage de la porte. 3. Franchir la porte. L'utilisation du passage d'urgence, poignée verte, entraîne la perte des patrouilles de cette zone.
Nobody walking around.
Les deux faisceaux se rejoignent quelques mètres en amont et là on n'a plus qu'un seul tube où les deux faisceaux sont amenés à rentrer en collision exactement au centre des détecteurs et tout ça baigne dans un énorme aimant rouge qui produit un champ magnétique pour que toutes les particules chargées soient courbées dans ce champ magnétique et elles sont courbées plus ou moins selon leur énergie. Et puis encore à l'extérieur, il y a une dernière couche de détecteur qui sert à détecter les muons qui traversent en fait et qui s'échappent du détecteur à la fin. Toutes les autres s'écrasent finalement dans différentes couches de détecteurs intermédiaires. Et ça permet après, en faisant un petit jeu de Sherlock Holmes, de revenir à ce qui s'est passé au moment de la collision.
de cette machine du collisionneur. Le système qu'utilise notre cerveau pour capter les informations ressemble quand même étrangement à ça. Les synapses, les neurones, etc. C'est exactement le même système. Et ce cerveau-là n'a jamais peint la chapelle Sixtine. Maintenant, ce qu'on pourra poser comme question à Edouard, c'est quand est née la réalité ? Puisque depuis le Big Bang, la matière a été créée avec le temps et l'espace, mais elle est arrivée jusqu'à la chapelle Sixtine. Donc comment ça se fait que ces particules qui sont si abstraites là, elles ont réussi à aller vers le sens ? Donc ça a été quand même un des projets de la matière, de créer sa propre conscience. Alors évidemment, les scientifiques disent « c'est par hasard ». C'est quand même pas mal comme un hasard. Donc la réalité, sans doute, est née quand on a pu dire « je », sans doute, ou avec le premier mot, puisqu'au commencement était le verbe, par la lumière. Mais quand la réalité a émergé, sans doute que ça correspond aussi à un Big Bang. Mais le Big Bang de l'esprit, pas celui de la matière.
Look.
Give me your cigarette.
Ah non. No.
Now you can light it again.
Oh no.
Light it again.
It will stink.
Go and light it again.
Force forte. Force électromagnétique. Force faible. Force gravitationnelle.
For me, you know, because as a dramatist, I have to.
En tant que dramaturge, je suis obligé de poser des questions que je me pose à moi-même. Le danger est celui-ci, mais attention, je vais vous choquer. C'est très curieux. Nous comprenons cette machine et nous comprenons la matière mieux que nous nous comprenons nous-mêmes. Les premières personnes qui ont inventé le sillon, c'est quelque chose de pratique qui a à voir avec la matière, ont ensuite prié les dieux pour qu'il pleuve. Le danger est que nos connaissances techniques sont toujours en avance sur ce que nous savons de nous-mêmes. Nous en savons plus sur le labour que sur nos âmes. Et il en a toujours été ainsi dans l'histoire. Nous avons survécu à cela. Mais regardez cette machine-là, et dans la cité des banques. Et c'est vraiment dangereux car les banques sont comme des parasites sur les sociétés humaines aujourd'hui. D'où ma question très choquante. Est-ce là la logique d'Auschwitz ?
Ouf !
Il y a les tranquilles.
Ce que je dis est délibérément provocateur, évidemment. Nous arrivons à l'extrémité de quelque chose. J'ignore si nous pourrons continuer longtemps comme cela, car à un moment, nous allons détruire la réalité.
Alice, comment ? Pourquoi ? L'énergie. Pourquoi ? Pourquoi collisionneur ? Pourquoi grand ? Pourquoi Adam ? Quand ? Combien ?
La nature peut avoir la réalité des trous noirs. Les humains n'ont pas de trous noirs. À la place, nous avons des camps de concentration et des pogroms. C'est ce qui arrive quand l'idéologie a perverti la relation entre le déterminisme de la nature et la liberté de la conscience humaine. Pour que nous soyons humains, l'imagination doit toujours concerner notre relation à ce monde. La représentation crée des situations extrêmes qui relient les lois de la nature à la conscience humaine, de manière à créer dans la réalité la logique de l'humain.
Nous sommes au Théâtre du Loup pour les gentilshommes de Vérone de Shakespeare. Avec Edouard et, après l'accélérateur, le théâtre.
Freedom is drama because it says, look, this is a fiction, but I can use this fiction to tell you what human reality is. And then it's the responsibility of the audience, not of the Pope, not of Adolf Hitler, not of...
La liberté, c'est la représentation. Parce qu'elle dit, regardez, ceci est une fiction. Et je peux me servir de la fiction pour expliquer ce qu'est la réalité humaine. Et donc cela engage la responsabilité du public lui-même, et pas celle du pape, ni d'Adolf Hitler, ni d'aucune autorité. Il y a eu deux grandes crises dans l'histoire de la représentation. La première est la création de la tragédie par les Grecs. Ils l'ont créée car ils étaient confrontés à une responsabilité par rapport à la démocratie. C'est toujours une question de responsabilité. Ils ont regardé les préoccupations humaines et ils ont créé les modèles standards de la représentation théâtrale. La seconde grande crise s'ouvre lorsque le christianisme commence à perdre le pouvoir de l'Inquisition. Et alors naît une nouvelle forme de théâtre avec la Renaissance, la Réforme, toutes ces choses qui arrivent ensemble. Elles se traduisent par le théâtre jacobéen de Shakespeare, et un petit peu Molière, Racine. Shakespeare est un passeport pour le monde moderne. Hamlet dit to be or not to be. Et c'est une question vraiment unique parce qu'elle ne dit pas le pape m'a dit ou Staline m'a dit ce que je suis. Je me le demande moi-même. Cela amène une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle logique d'être au monde. Et cela a duré 300 ou 400 ans. Mais nous sommes maintenant arrivés à la troisième crise. Si nous ne pouvons pas résoudre cette crise, alors nous n'aurons pas d'avenir humain.
Cette femme est belle! Elle est belle aussi, la Julia que j'aime. Que j'ai aimée, dois-je dire. Car mon amour s'est fondu comme une figure de cire devant le feu. Il me semble que mon dévouement pour Valentin s'est refroidi. Et que je ne l'aime plus comme par le passé. Ah, mais j'aime trop, bien trop sa maîtresse. Voilà pourquoi je l'aime si peu, lui. Oh, mais je suis raffolé d'elle en la connaissant mieux. Moi qui déjà l'aime sans la connaître. J'arrêterai si je puis mon amour égaré. Sinon, j'userai de tout mon pouvoir pour la séduire. Wouh!
paye, mais... Viens, viens. So, my son Matteo, Edouard.
I like that very much.
Je me disais que finalement, la différence entre cet après-midi et ce soir, entre l'accélérateur et le théâtre, la grande différence, c'est l'amour. C'est pas pour rien que l'accélérateur doit travailler sur le froid, sur moins 1,9 Kelvin, c'est-à-dire plus de moins 600 degrés, je sais pas combien, c'est pas par hasard. Et ce soir, c'est l'histoire des hommes, c'est des histoires d'amour. Et sans doute que la différence, elle est là, quoi.
And the third crisis means creating a new form of drama. Nature's got nothing to do with that.
La troisième crise implique de créer une nouvelle forme de représentation. La nature n'a rien à voir avec cela. Mais nous avons pris le pouvoir sur la nature, et cela rend possible la révolution industrielle, les lumières, et cette machine à Genève devient possible. Il y a une nouvelle forme de conscience qui naît. Quand on est responsable vis-à-vis du monde, les Grecs disent « ceci est juste, ceci est faux ». Hamlet dit « ceci est juste, ceci est faux ». Molière dit « ceci est juste, ceci est faux ». Il parle de moralité. Si j'avais à dire ce qu'est l'Inquisition aujourd'hui, qui conditionne nos structures sociales, je parlerais de l'Inquisition des banquiers et des financiers. Ce n'est plus le pape qui dit « tu es bon ou tu es mauvais ». Ce qui compte aujourd'hui, c'est combien d'argent tu as à la banque. Et cela fait de vous quelqu'un de bien ou de mauvais. Cela devient la base de notre société. Mais c'est immoral. Les êtres humains ne peuvent pas vivre avec cela. On ne peut pas diriger une société dans ce sens. Cela infantilise les gens ou les rend dangereux, très destructeurs. Donc il nous faut créer un nouveau type de représentation, un nouveau théâtre qui nous permette d'être humains. Je sais ce que je mange. Je sais si j'ai froid ou faim, car c'est ce qui me relie à la nature. Mais ce que signifie être bon, ce que signifie être mauvais, tout cela nécessite d'être défini, et cela induit quelque chose qu'on appelle la logique. Si l'on me demandait quelle est la logique en ce moment, et c'est ce que j'ai dit hier qui était peut-être choquant, mais qui est absolument juste à mon avis. Je veux savoir si le CERN, si la science au CERN à Genève, en ce moment, dans la cité des banques, avec l'inquisition des banquiers, je veux savoir si cette logique, qui n'est pas celle des Lumières, qui n'est pas celle du rationalisme, je veux savoir si ce n'est pas la logique d'Auschwitz. Et je pose la question évidemment très sérieusement. Ce n'est pas un geste de rhétorique. J'ai le droit de la poser et j'ai le droit d'exiger une réponse. Mais au final, la vraie réponse ne peut venir que du théâtre. Donc, quand je disais que j'étais présent dans le Big Bang et que nous étions tous, en un sens, présents dans le Big Bang, parce que c'est un système clos, rien ne vient de l'extérieur. Il n'y a pas de Dieu, pas de diable, il n'y a rien qu'un système clos. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps que la matière, l'espace, l'énergie, le temps, quelque chose d'autre est créé par le Big Bang, et c'est la réalité. Et la réalité est la représentation humaine. Et si nous ne sommes pas capables de créer le théâtre de la troisième crise, alors c'est que nous avons vraiment perdu la réalité.
Je peux juste dire comment ce principe de réalité est né chez moi. Il a toujours été là, depuis ma naissance. J'ai une photo de bébé qui le prouve. C'est la photo d'un enfant qui ne comprend pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pourquoi. Pourquoi ? Il y a toujours ça inconsciemment qui m'a piloté. Et un jour, je travaillais avec Georges Lavaudan au TNP à Lyon. Et un jour, je reçois de Alain Françon dans la compagnie des hommes de Bond. Je lis ce texte et j'ai été perforé par ce principe de réalité. J'ai toujours cherché une écriture contemporaine qui s'accorde avec la réalité de notre monde. Et je ne l'ai jamais trouvé. Évidemment, j'ai trouvé beaucoup de choses chez Pasolini, qui vient de la terre de ma grand-mère, enfin. Hein. Mais au niveau acteur, au niveau pièce de théâtre, je ne trouvais pas. Évidemment qu'on le trouve chez Shakespeare, etc., etc. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, Shakespeare n'a connu ni les camps, ni la bombe, ni le 11 septembre. Et en lisant ça, j'ai été synchronisé avec le monde. Et quand on a travaillé cette pièce au Théâtre de la Ville au début des années 90, même les acteurs qu'avait choisi Alain Françon pour travailler sur cette pièce n'étaient absolument pas synchronisés parce qu'ils ont compris ce qu'était ce travail de synchronisation avec le texte, avec eux-mêmes et avec le monde, quand ils ont dû, en représentation, prendre la responsabilité d'être synchronisés avec cette parole, avec eux-mêmes, et de la donner au public. Pourtant, il y avait des gros cylindrés sur le plateau, hein, il n'y avait pas des petits kékés. Hein. Eh bien, ces gens-là avaient peur d'aller sur le plateau parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à cette responsabilité de l'acteur qui, avant tout, doit être un homme. Et il est sur un plateau pour représenter les hommes.
Edouard Bond et Carlo Brandt dans l'accélérateur de particules. Avec Sandrine Laplace et la voix d'Éric Caravaca. Merci à la Fondation Bodmer et au Théâtre du Loup de Genève. Musique de Gabriel Scotti et Vadislav Delay. Attachée de production, Christine Bernard-Gedge et Ève Etienne. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Céline Terce.
C'était un numéro de Sur les docks, diffusé pour la première fois le 22 janvier 2014 sur France Culture.